Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Rhinocéros est une pièce de théâtre absurde publiée en 1959 par Eugène Ionesco, dramaturge franco-roumain majeur du théâtre de l'absurde. Dans une petite ville de province, des habitants se transforment progressivement en rhinocéros. Ce phénomène impossible, d'abord accueilli avec étonnement, devient une norme que presque tous finissent par accepter, justifier ou désirer. La pièce suit particulièrement Bérengère, personnage ordinaire, désordonné et peu héroïque, confronté à la disparition graduelle de ses proches et de son monde humain. Sous les ressorts comiques, les répétitions et les situations invraisemblables, Ionesco examine la contagion des idéologies collectives. Le conformisme et la fragilité du jugement individuel. Écrite dans le contexte des totalitarismes du XXe siècle, la pièce ne se réduit pas à une allégorie politique unique. Elle interroge aussi le langage, la solitude, la peur de rester seul et la difficulté de défendre une humanité imparfaite contre la puissance rassurante du groupe. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la métamorphose animale comme image de la contagion idéologique, la rhinocérite ne fonctionne pas comme une maladie réaliste. Elle donne une forme visible, bruyante et grotesque à un processus social par lequel des personnes renoncent à leur discernement. Le rhinocéros représente une force massive, grégaire et destructrice, mais sa signification évolue selon les personnages. Ce qui paraît initialement scandaleux ou absurde est peu à peu traité comme un fait banal, puis comme une évolution souhaitable. Cette progression est décisive car Ionesco ne décrit pas une soumission instantanée. Il montre une suite de concessions intellectuelles et affectives qui rend la conversion pensable. Les habitants discutent des espèces de rhinocéros, des règles logiques ou des circonstances, au lieu de maintenir leur attention sur la violence du phénomène. Le détail technique devient une manière de détourner le regard du problème moral. La pièce vise ainsi les mécanismes qui permettent à une idéologie de se répandre sans devoir convaincre chacun par une argumentation cohérente. L'habitude, la fascination pour la force, le désir de ne pas être exclu et la reformulation euphémistique de la réalité y contribuent. La transformation corporelle rend tangible une déformation qui commence dans la pensée. Elle rappelle que le danger collectif ne vient pas seulement de dirigeants ou de doctrines identifiables, mais aussi de la disposition quotidienne à considérer comme normal ce qui détruit la dignité d'autrui. Deuxièmement, Bérengère et la résistance sans héroïsme idéal. Bérengère se distingue des figures traditionnelles du héros. Au début, il est fatigué, négligé, hésitant et souvent incapable de formuler une position ferme. Son ami Jean lui reproche son manque de discipline et semble incarner une normalité plus assurée. Pourtant, la pièce inverse progressivement cette opposition. Les personnages les plus sûrs de leur raisonnement, de leur statut ou de leur adaptation se révèlent capables de justifier la métamorphose, tandis que Bérengère demeure humain. Ionesco évite donc de faire de la résistance le privilège d'une élite morale ou intellectuelle. Elle dépend plutôt de la capacité à reconnaître une perte réelle, même quand les discours environnants la présentent comme un progrès. Bérengère éprouve la peur, le découragement et le désir de rejoindre les autres. Son refus final ne résulte pas de certitudes confortables, mais de son incapacité à consentir à la disparition de ce qui rend les relations humaines possibles. Cette ambiguïté donne à son geste une portée concrète. Résister ne signifie pas se croire pur ni posséder une doctrine achevée. Cela signifie maintenir une limite lorsque la majorité transforme la puissance, la conformité et le nombre en critères de vérité. Le personnage rend aussi visible le coût de cette position isolement, doute et perte des liens affectifs. La pièce ne promet donc pas que la fidélité à soi sera récompensée, mais elle affirme sa nécessité éthique. Troisièmement, la dégradation du langage prépare la perte du jugement. Dans Rhinocéros, le langage ne sert pas seulement à communiquer une information. Il révèle la manière dont les personnages évitent ou affrontent ce qu'ils voient. Les dialogues comportent des lieux communs, des raisonnements mécaniques, des disputes sur des détails secondaires et des formules répétées. Ces procédés créent un comique absurde, mais ils montrent surtout une parole qui se détache de l'expérience. Face au rhinocéros, plusieurs personnages cherchent moins à comprendre la menace qu'à la classer, la relativiser ou la rendre acceptable par des mots. Le langage devient alors un écran protecteur, on débat de cohérence formelle, pendant que les faits invalident les repères communs. Ionesco associe ainsi l'appauvrissement de la parole à l'affaiblissement du jugement. Une expression toute faite peut remplacer une observation et une logique sans responsabilité peut masquer une capitulation morale. Cette critique ne condamne pas la raison elle-même. Elle vise une raison réduite à des automatismes, incapable de tenir compte de la violence, de la contradiction et de la singularité humaine. La pièce conserve une actualité particulière dans des environnements saturés de slogans ou de récits simplificateurs. Elle invite à examiner les mots qui rendent une situation tolérable avant même de la rendre désirable. Préserver une parole vivante suppose de nommer les transformations sans les déguiser et de refuser les catégories qui effacent les conséquences humaines. Quatrièmement, le conformisme naît du besoin de communauté autant que de la peur. La force de la pièce tient au fait que les habitants ne deviennent pas rhinocéros uniquement sous la contrainte. La métamorphose finit aussi par offrir une appartenance. Quand le nombre de personnes transformées augmente, rester humain ne signifie plus seulement rejeter un danger, cela signifie accepter de se retrouver du côté de la minorité, puis de la solitude. Ionesco montre que cette dimension affective est centrale. Une idéologie collective peut séduire, parce qu'elle promet de résoudre l'incertitude individuelle, de donner une direction et de réunir ceux qui y adhèrent. Le groupe semble d'autant plus légitime qu'il est visible, énergique et majoritaire. La norme se déplace alors, ce ne sont plus les transformations qui exigent une explication, mais les individus qui refusent de changer, qui doivent se justifier. Ce renversement éclaire le mécanisme du conformisme. La majorité n'apporte pas une preuve de vérité, mais elle exerce une pression sur la perception de ce qui paraît possible et acceptable. Les liens intimes sont également touchés, car les attachements personnels ne suffisent pas toujours à protéger contre le désir de rejoindre le mouvement dominant. La pièce évite une leçon rassurante selon laquelle les autres seraient simplement crédules. Elle expose une vulnérabilité ordinaire, chacun peut vouloir cesser de résister quand résister paraît inutile, ridicule ou socialement coûteux. Cette lucidité rend la satire plus inquiétante et plus universelle. En dernier lieu, une comédie absurde où le rire révèle une catastrophe humaine. Rhinocéros associe des éléments qui semblent incompatibles, des courses animales dévastatrices, des débats minutieux, des gestes quotidiens et une tragédie de disparition collective. Cette alliance est caractéristique de la dramaturgie de Ionesco. Le rire ne réduit pas la gravité du sujet. Il met en évidence le décalage entre la magnitude du désastre et les réactions insuffisantes des personnages. Les conversations banales persistant alors que la ville perd ses habitants, ce qui rend sensible la capacité humaine à s'adapter à l'inadmissible. Le théâtre donne à ce processus une puissance particulière. Les bruits, les déplacements, les apparitions successives et la raréfaction des voix humaines permettent au public de percevoir physiquement la montée de la menace. Le spectacle ne repose donc pas sur une démonstration abstraite du totalitarisme. Il transforme une question politique et morale en expérience sensorielle, comment réagir quand le monde commun change sous nos yeux et que les autres cessent de reconnaître ce changement comme une catastrophe. La forme absurde empêche aussi une lecture trop confortable. Le public peut rire de personnages prisonniers de leurs habitudes verbales, tout en reconnaissant la proximité de ces mécanismes avec des comportements ordinaires. Par son mélange de farce, de satire et de détresse existentielle, la pièce dépasse le réalisme psychologique. Elle fait de la démesure un outil précis pour examiner la normalisation du collectif et la précarité de la personne. En conclusion, Rhinocéro convient aux lecteurs de théâtre, aux étudiants en littérature et en philosophie, ainsi qu'aux personnes qui cherchent une œuvre concise mais exigeante sur le conformisme, les idéologies et la responsabilité individuelle. La pièce peut aussi intéresser les lecteurs qui souhaitent réfléchir aux mécanismes contemporains de polarisation, de langage simplificateur et de pression majoritaire, sans recevoir une leçon politique fermée. Son bénéfice intellectuel principal est de déplacer la question, il ne suffit pas de demander pourquoi les autres adhèrent à un mouvement destructeur. Il faut aussi considérer les compromis ordinaires, les justifications verbales et les besoins affectifs qui rendent cette adhésion possible. La lecture invite à distinguer une conviction réfléchie de la simple adaptation à ce qui devient dominant. Elle rappelle également que la résistance peut être fragile, confuse et solitaire, sans perdre pour autant sa valeur. Par rapport à des romans ou essais consacrés au totalitarisme, Rhinocéro se démarque par la concentration de sa forme dramatique et par son imaginaire grotesque. La métamorphose ne décrit pas un régime déterminé de manière documentaire. Elle matérialise une dérive de la conscience que le public voit se propager. Cette distance absurde préserve la portée historique de la pièce tout en empêchant de la limiter à une époque précise. Le mélange de comédie, de malaise et de tragédie fait de cette œuvre un instrument particulièrement durable pour penser ce que coûte le fait de demeurer humain lorsque la foule valorise la force et elle. Uniformité. Si vous souhaitez soutenir Eugène Ionesco, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.